con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia, me acerco al agua.
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission à l'air libre, une émission un peu particulière aujourd'hui parce que j'ai réalisé cet entretien avec l'auteur de ce mois, Natacha Apana, à Grenoble, au Printemps du Livre, un festival littéraire qui s'est tenu du 2 au 6 avril 2008 et qui accueillait pour sa 6e édition des écrivains, hommes et femmes, autour de la thématique portrait de famille. J'y ai animé la rencontre publique que vous allez entendre en compagnie de Natacha Apana. Cet auteur, né à l'île Maurice en 1973 à Maillebourg, a passé son enfance dans le nord de l'île à Piton. Elle est originaire d'une famille qui vient d'Inde, comme de nombreuses autres personnes à Maurice, venues pour travailler la plupart du temps dans des conditions assez misérables. Elle vient en France à Grenoble en 1998. Elle s'installe à Lyon, elle y travaille dans le domaine du journalisme et de l'édition. Elle avait déjà commencé à écrire à Maurice, mais ses premières parutions se font en France. Le premier roman d'elle paraît chez Gallimard dans la collection Continent Noir en 2003, Les Rochers de Poudre d'Or. Il est suivi de deux autres romans, toujours chez Gallimard Continent Noir, Blue Bay Palace et La Noce d'Anna. La rencontre que nous allons avoir concerne plus le dernier ouvrage qui est sorti fin 2007 aux éditions de l'Olivier, Le Dernier Frère. Nous allons parler essentiellement de ce livre, mais nous allons évoquer les autres aussi qui ont tous été remarqués par le public, par la critique et par différents prix littéraires. Bonjour, bienvenue à tous. Natacha Apana, bonjour.
Bienvenue.
On va passer cette heure ensemble autour de vos livres, en particulier le dernier. Ce qui me frappe dans ce livre-ci, Le Dernier Frère, c'est justement peut-être ce rapport à l'histoire que vit Raj, le narrateur. Et je voudrais l'aborder par un biais peut-être lointain, mais ça me semble important, qui est celui du sentiment de culpabilité, qui le submerge très souvent, pour différentes raisons. Donc peut-être qu'on pourrait commencer par ça, parce que c'est à la fois quelque chose de très proche dans les rapports entre les êtres humains, c'est un rapport de culpabilité avec un personnage précis, David, et avec ses frères, mais aussi plus historique. Natacha.
Je crois que Raj a... son sentiment de culpabilité est à plusieurs niveaux. Ça commence très très tôt. Il a deux frères et il est choisi par sa famille pour aller à l'école. Et pour lui, l'école devient la première source de plaisir non partagé par ses frères. Avant, il jouait, il était très content. Et là, c'est un plaisir solitaire. Et il a du mal ensuite, quand il rentre chez lui, à comprendre que ses frères ont travaillé toute la journée. Et donc, je dirais que ça, c'est la première graine de culpabilité qui s'insinue en lui. Ensuite, évidemment, avec ce qui se passe avec la mort de ses frères, le fait d'avoir toujours été le plus faible, le plus maladif, celui qui toussait, celui qui était le plus protégé, et pourtant c'est lui qui survit. Donc deuxième source de culpabilité, et ensuite bien sûr avec son histoire avec David, surtout après historiquement, comme vous le dites, sa culpabilité ne fait que se renforcer quand il est dans une ignorance totale de l'histoire. Il ne sait pas qu'il y a une guerre, il ne sait pas ce que c'est qu'un juif, il ne sait pas qui c'est ce petit garçon qu'il rencontre. D'ailleurs, quand le petit garçon lui dit « Je viens de Prague », il est persuadé que Prague...
C'est sur l'île Maurice, dans un petit coin perdu.
Voilà, il est persuadé que c'est par là. Et... quand plus tard, à l'adolescence et à l'âge adulte, où il se rend compte de ce que David était, de ce qu'il représentait, de l'histoire que David avait derrière lui et de ce que lui a fait. C'est-à-dire, lui, il a pris David comme un garçon à la limite ordinaire, pour en faire un frère, pour en faire un ami, sans penser à lui du tout. Et ça, c'est, pour lui, c'est très difficile à vivre.
Alors, on a l'impression que toute cette histoire, on va revenir aux détails, hein, qui ne sont pas des détails, justement, ce rapport très fort à l'histoire, à la persécution des Juifs, et à ce qui se passe précisément à l'île Maurice ces années-là. Mais malgré tout, cette culpabilité, elle s'immisce dans le livre à différents niveaux, comme vous l'avez dit, et Raj étant le narrateur, étant celui qui survit, on comprend dès le départ qu'il se met en devoir de raconter. À la fois pour échapper peut-être à cette culpabilité, on ne sait pas exactement ça, j'ai l'impression, mais en tout cas pour témoigner, pour transmettre ça, en l'occurrence à son fils.
Avant ce devoir de raconter, je crois que dès l'adolescence, quand la première fois que son professeur parle de la Seconde Guerre mondiale, il ressent le devoir d'avoir une vie honnête. Et pour moi, ça, c'était important qu'il soit un personnage qui est, après tous ces drames, qu'il fasse de cette amitié-là, de cette fraternité formidable, une sorte de pilier de sa vie d'adulte. Il va être enseignant, il va épouser la femme qu'il aime, il va aimer son fils, il va prendre soin de sa maman. Il va essayer en tout cas d'avoir une vie honnête et digne. Pour moi, ça c'est, en tout cas pour Raj, dans sa tête, c'est un de ses premiers devoirs. Et c'est assez tard, quand il a son fils, quand il est tout seul avec son fils, que ce sentiment de mémoire et de transmission de cette chose-là, de ce qu'il a vécu, de ce dernier frère, lui revient. Et c'est un peu le début du livre. Il rêve de David et il n'avait jamais...
C'est la première fois que ça lui arrive.
Voilà. Ouais. Il n'avait jamais rêvé de David. Il dit même, je l'avais cherché pendant des années.
C'est un homme âgé quand il rêve de David.
Oui, il a 70 ans à peu près. Et... c'est la première fois que David lui revient en mémoire. Et ce rêve est un peu comme, pas un prétexte, mais lui donne le courage déjà d'aller au cimetière et ensuite d'avoir le courage de raconter et de regarder ça en face.
Pendant longtemps, il a quand même conservé cette fidélité à ce frère choisi. Cet ami qui devient comme un frère, puisqu'il lui a promis qu'il ne le laisserait jamais tomber, et même finalement après sa mort, il n'a jamais laissé tomber, c'est-à-dire que cette vie honnête qu'il s'est choisie, cette espèce de rigueur morale, c'est à David qu'il a promis.
Oui, oui, tout à fait. Il a toujours... Il y a une scène où il est un adolescent très... Il commence à être violent, etc. Et il se dit, je ressemble à mon père, je ressemble de plus en plus à mon père. Et son professeur lui parle de la Seconde Guerre mondiale. Et lui, il se dit, mais... voilà, il savait qu'il y avait quelque chose, une interrogation après, et cette interrogation trouve une réponse floue, mais une petite réponse, et il pense toujours que c'est David qui vient le remettre dans le droit chemin. Il pense toujours que c'est cette présence-là, le souvenir de ce que ce petit garçon lui a apporté qui lui permet toujours... comme vous le disiez, d'avoir cette rigueur morale qu'il a.
Et cette figure David qui l'habite tout le temps lui permet aussi de ne pas ressembler à son père. C'est-à-dire que le rapport au père que lui entretient avec son fils, le rapport à la paternité, au rapport père-fils, est complètement différent de celui qu'il a eu lui-même avec son père, qui était un être violent, qui était fou, comme d'autres personnes dans l'île d'ailleurs, hein, d'autres figures d'hommes surchargés de travail et de douleur, hein, mais qui néanmoins battait sa femme et ses enfants. Et lui est dans un rapport évidemment complètement opposé, grâce à ce frère apparu tardivement.
Il fait un choix, en fait. Il a plusieurs modèles. Évidemment, il a le modèle de ce père, évidemment, mais il a également le modèle de cette mère terriblement tendre et aimante. Et il a surtout eu deux frères qu'il a beaucoup aimés, avec qui il a joué, et David. Donc il choisit, si vous voulez, ces modèles-là plutôt que celui de son père.
Alors, choisir, ça c'est justement ce qui est important quand on parle de ces relations de famille. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille. En réalité, si, on peut choisir des modèles dans sa famille au détriment d'autres. Et on peut choisir aussi de faire d'un être proche quelqu'un qui est de sa famille, ce qui arrive en l'occurrence avec David.
Oui, il a le courage, en fait, de choisir sa fratrie à lui. Et au-delà ils se ressemblent pas du tout physiquement, il n'avait jamais vu les cheveux blonds de sa vie, ils n'ont absolument rien en commun, mais au début, ils ont des jeux, ils ont cette sorte de coup de foudre fraternel, cette reconnaissance de ce que c'est qu'avoir 10 ans et de ne pas être très heureux. Et ils se choisissent. Et moi, ça, je crois que c'est très possible.
Il y a une très belle expression donc utilisée par Raj pour décrire leur relation au départ. Les jeux étaient notre langue fraternelle. Donc, il y a à la fois, effectivement, ce rapport enfantin, insouciant de jeu, en même temps, cette conscience qu'il y a un langage particulier qui est différent de tous ceux qui les entourent, et le sentiment de fraternité.
Oui, c'est surtout pour ne pas oublier qu'ils étaient des enfants. Et ces moments qui passent ensemble, c'est à peu près 4 jours, ils ont, malgré tout ce qui les entoure, malgré le chagrin, le drame, tout ce qui les attend, ils ont cette naïveté, cette innocence et ce courage de je crois que les adultes non plus, de tout oublier et de jouer, et de faire les malins, et de sauter, et de grimper aux arbres, et de courir comme on aime quand on est enfant. Et ça, c'est... D'ailleurs, pour lui, je pense que c'est des moments très très précieux, ça. Ils n'ont pas toujours été malades à la prison, ils n'ont pas toujours été des enfants tristes, même si c'était pendant 4 jours. C'était également un concentré de jeu, de rire et de joie pour lui. Et dans ses souvenirs un peu triés d'homme de 70 ans, même s'il garde beaucoup de tristesse, de culpabilité, de chagrin, il garde aussi ça. Il garde ce sentiment très, très cru de ce que ça a été de rire avec David.
Le rire qui ressurgit chez sa mère, justement, quand elle voit David la première fois. Elle qu'il pensait ne plus jamais voir rire après la disparition de ses deux fils, hein, donc la mort de ses deux frères à lui, et qui surgit parce que David est là et parce qu'il y a, elle sent ce bonheur chez son dernier fils. On pourrait peut-être entendre un peu votre voix et la voix de l'écriture avec un premier passage où il est question de la mère justement et de la grand-mère.
Ma mère était persuadée que l'hôpital ne savait pas vraiment guérir. Sur mes lèvres encore sensibles, elle appliquait chaque soir une pâte jaune ou bourrance. Elle massait doucement mes flancs avec une huile épaisse. Elle plaçait ses mains ouvertes à la base de mes côtes. On aurait dit les ailes d'un ange déposées sur mon ventre. Elle fermait les yeux. Et si je restais tranquille, je pouvais sentir battre ses veines. Dans ses mains, il y avait comme un mystère. Elle savait trouver les herbes, les feuilles, elle savait leur parler. Entre ses doigts, chaque plante trouvait son destin, guérir, éloigner, soulager, parfois tuer. À Mapou, on l'a sollicitée pour une douleur, une blessure, et en chuchotant, elle donnait le nom d'une plante, quelques indications, et si cela fonctionnait, quelques jours plus tard, devant notre porte, nous trouvions un fruit, un légume, une poignée de riz ou du sucre. Ma mère ne parlait jamais de plantes avec moi, mais je sais qu'elle a transmis un peu de son savoir à mon fils. Cela m'a toujours amusée de le voir entretenir méticuleusement son jardin, lui qui travaille dans un monde de technologie et chez lui dans sa bibliothèque remplie de romans de science-fiction et de manuels d'informatique. Il y a un rayon dédié aux herbes médicinales et à la botanique. Quand je passe le week-end dans sa maison où l'on entend la rivière des vallées plus bas, je sais que ma mère vit un peu en lui. Je le vois ouvrir et refermer ses bocaux remplis de feuilles séchées. Je l'observe peser et mélanger je ne sais quelle racine achetée à grand prix. Et quand il nous prépare une infusion délicieuse que nous buvons le soir sur la terrasse et que je le complimente sur la boisson, il me répond non pas que c'est une recette de ma mère, mais il me dit de façon désarmante « c'est grand-mère ».
Voilà, ça c'est une transmission possible, semi-inconsciente, par des gestes quotidiens, par l'amour des plantes. Il y a une autre transmission, on en a parlé déjà un petit peu, mais consciente cette fois-ci, et chargée de sens, parce qu'elle est volontaire, c'est le fait de raconter, qui est quelque chose, il me semble, qui revient de façon assez récurrente dans vos livres, ce désir de témoignage, je dirais de transmettre, mais en fait c'est témoigner. On peut citer juste la première ligne de la noce d'Anna aussi, « Il faut que je raconte doucement ». Alors évidemment il y a le doucement qui tempère un petit peu ce « il faut que je raconte ». On se dit que bon, on ne sait pas si la nécessité c'est d'aller doucement ou si « il faut que je raconte » est plus important, mais les deux vont ensemble. Aller doucement pour raconter, mais raconter quand même, fermement. À la fois une histoire intime, personnelle, et comme pour le dernier frère, témoigner d'un fait historique oublié. Alors, je voudrais qu'on décrive et qu'on explicite vraiment ce dont il s'agit. Pourquoi David se retrouve emprisonné, même si c'est dans un semblant d'hôpital, à l'île Maurice en 1944.
Alors, les faits historiques, dès 1939, plusieurs bateaux remplis de juifs fuyant l'Europe essayent de rejoindre la Palestine et pour trouver refuge. Quelques bateaux arrivent à destination et donc peuvent des juifs, alors des Polonais, des Tchèques, peuvent débarquer. Et il y a un bateau qui s'appelle l'Atlantique qui en effet arrive jusqu'en Palestine, et là il n'y a plus de place pour eux. Et il n'y a plus de place, ils sont la Palestine est sous mandat britannique, donc ils sont considérés comme étant des immigrants illégaux, parce qu'il faut un petit papier, etc., pour pouvoir entrer à Haïfa. Et que faire d'eux? Ça, c'est quand on lit un peu les archives, les telex entre les différents, les différents bureaux, c'est vraiment que faire d'eux. Et là, on essaye de trouver un endroit avec des barbelés. J'étais très frappée par ça, c'était marqué noir sur blanc, avec une grille, des barbelés, enfin quelque chose d'enfermé. Parce que bon, c'était des hors-la-loi. Et il y a l'officier britannique en charge à l'île Maurice de l'office, ce qu'on appelle le colonial office, le bureau colonial, qui répond, oui, nous avons une prison à Beaubassin, prête à accueillir un peu plus de 1000 personnes. Et donc ce bateau, en 1940, donc quitte le port d'Haïfa sans que ces gens-là puissent descendre et partent pour une autre colonie britannique qui est l'île Maurice. Ils arrivent en décembre 40. Dès qu'ils arrivent, on les met dans un bus et on les amène à la prison où ils sont enfermés. Et là, ce n'est pas un camp de travail, ce n'est pas un camp de mort, c'est un camp de vide. Il n'y a rien. Il y a des femmes, des hommes, séparés, et ils ne font rien de la journée. Ils n'ont aucune information. La seule façon pour des hommes en bonne santé pour sortir du camp, c'est de s'engager dans l'armée britannique. Et là, ils restent jusqu'à la fin de la guerre et ils partent tous en août 45. Il n'y en a pas un qui est resté, sauf évidemment ceux qui sont morts.
Ouais, ceux qui étaient malades et qui étaient quand même... On a l'impression que les conditions de vie et de soins étaient très précaires.
Très précaires, mais ils étaient dans un lieu loin de tout. Le village de Beaubassin, dans Le Dernier Frère, avec la couturière, etc., c'était totalement fictionnel. C'était vraiment une forêt. Il n'y avait strictement rien. Il y avait un hôpital là. Ils étaient soignés. Les propres détenus soignaient d'autres personnes. Ceux qui avaient quelques compétences, à peine, peut-être un premier cours de secourisme, mais c'est tout. Enfin, en tout cas, moi je vous raconte ce que je sais parce que.
Ça a été complètement occulté pendant des années.
On sait peu de choses. Et on sait peu de choses. J'ai rencontré des historiens de la Seconde Guerre mondiale qui ne savaient pas. Ils n'avaient jamais entendu parler de cette histoire-là. Et c'est pour ça, pour moi, il était important que Le Dernier Frère ne soit pas le point de vue d'un détenu. Parce qu'il reste des survivants et qui peuvent raconter leur histoire, qui ont une voix particulière, qui ont quelque chose à dire. Soit c'est toujours Raj qui voit. Parce que je ne peux pas, raconter un quotidien tel qui est si récent et que beaucoup de gens ont encore en mémoire. Et surtout, ils sont rentrés en contact avec aucun Mauricien. Alain Maurice parlait de cette affaire, peut-être certaines personnes qui le savent, mais sinon.
Oui. Raj est clandestin, c'est un visiteur clandestin.
David.
Non, Raj aussi. Raj, voyant le camp, c'est de façon secrète et clandestine. Enfin, il s'y retrouve à un moment par hasard, mais.
Il est là pour voir ce que son père.
Il n'aurait pas dû voir
jamais,
ce lieu.
Oui, il n'aurait jamais dû y rentrer déjà. Mais c'est un no man's land. C'est exactement ça. Ils sont là pour 4 ans. Et puis, du jour au lendemain, ils sont partis.
On va reparler de cette histoire de voix parce que c'est important dans vos récits et c'est ce qui fait aussi évidemment le style particulier de vos livres. Mais pour rester sur cet aspect de nécessité, presque j'ai l'impression historique, comme contexte, peut-être pas tous vos livres, mais malgré tout les événements sociaux, historiques, politiques sont toujours là, plus ou moins proches. Le premier roman était déjà Les Rochers de Poudre d'Or était déjà à la fois une histoire de famille et une histoire plus générale, historique, avec justement deux voix différentes, un contrepoint. Et là, c'est parler de ces personnes qui venaient travailler à l'île Maurice, les coulis, les Indiens, souvent, qui venaient forcés à travailler avec des salaires très très bas. Et ça, c'était aussi, j'ai l'impression, pour vous, une remise au point historique à travers les fictions romanesques.
Je n'ai jamais pensé comme une remise au point, puisque c'était, pour Les Rochers de Poudre d'Or, c'était une histoire qui était très connue à Maurice et qui, moi, m'était absolument banale et ordinaire. Maurice, tout le monde connaît ces histoires-là. Mais c'est vrai que chaque famille a une anecdote particulière sur un ancêtre qui a fait ceci, qui a fait cela. En général, il a fait des choses très bien. Il était le plus fort. Enfin, et évidemment, il a quitté une terre magnifique qui est l'Inde pour venir à Maurice et travailler du matin au soir. Et c'est vraiment une histoire qui m'est revenue un peu quand je suis arrivée en France, où je percevais mieux, si vous voulez, ce qui faisait cette histoire. C'est-à-dire les hommes derrière, j'avais appris par exemple leur tabou ultime qui était l'eau, l'océan, et donc c'est... Bien après, je me suis dit, il devait être quand même assez courageux ou alors très désespéré
pour oser traverser un océan.
Pour oser vraiment bafouer ça, transgresser ce tabou ultime de l'hindouisme, de l'Inde, et non seulement ça, mais surtout de l'indianité, puisque c'était c'est même dans les textes sacrés, on n'est plus indien. C'est-à-dire on perd même un peu de sa nationalité. D'ailleurs, l'hindouisme et le judaïsme se rejoignent sur ce point-là, sur le rapport avec la mère patrie. Et c'est ici que tout ça m'est apparu, si vous voulez. Mais je n'ai jamais... C'était pas vraiment une remise au point parce que c'était...
Oui, il n'y avait pas de révélation, de découverte historique, mais plutôt... c'est pas forcément connu ici non plus.
Non, voilà. Mais c'était plutôt pour moi aussi de dire que les Indiens qui venaient souvent, bon ça c'est... L'histoire est comme elle est, hein. On a toujours tendance à embellir les choses, comme je disais, on disait toujours, de toute façon, ceux qui étaient venus avaient laissé une situation telle. Mais c'est aussi pour moi de reparler de Mauriciens et de dire que les Mauriciens, ils sont les Indiens, les situations étaient très différentes. Et pour moi, c'était plus ça, pour pointer les différences, si vous voulez, entre le paysan, qu'il y avait vraiment une variété de situations qui poussaient les gens. Par exemple, à Maurice, si vous dites que les Indiens sont arrivés pour chercher de l'argent, c'est pas très bien perçu. Il faut vraiment entretenir cette mémoire du coulis fatigué qui n'est pas venu là, alors que beaucoup d'Indiens étaient venus vraiment pour chercher de l'argent.
On sent dans tous vos livres cet attachement à cette terre, à cette île réduite, où effectivement il y a un nombre considérable de contrastes. Entre les personnes, dans le paysage et dans le climat, une terre à la fois magnifique, paradis touristique, et en même temps terrible quand on lit vos livres, quand on lit les livres de Carl de Souza par exemple, c'est l'enfer d'un paradis, et ce contraste il est toujours très très fort, très marqué dans vos livres, et j'aurais qu'on entende aussi le nombre de fois où vous rattachez finalement ces histoires à des rêves et à des illusions. Juste dans les rochers de poudre d'or, il y a une toute petite phrase qui fait référence au titre. À chacun son illusion, à certains de l'or sous les rochers, à d'autres des frères. Donc on est en plein dans on est en plein dans cette histoire-là, où il y a d'un côté finalement l'illusion d'une terre peut-être accueillante mais qui ne l'est pas, ou le choix d'une famille qui peut être accueillante mais qui peut ne pas l'être aussi.
Oui, il y a un thème, bien sûr, historique de la terre promise. Mais pour moi, il y a un thème que j'aime beaucoup explorer, c'est l'enfermement dans une terre, dans une famille, dans un préjugé, comme dans Blue Bay Palace, par exemple, les préjugés sur les castes. Ça, c'est des plus que, et évidemment, ça se rattache à la géographie, puisque je me rends bien compte que je ne crois pas que c'est très conscient chez moi que je parle de l'île Maurice. Ça peut sembler un peu idiot de dire ça, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément une envie particulière de soit démonter une théorie ou d'en raconter une autre. En revanche, ce qui est très présent quand je commence un texte, c'est que devient la nécessité d'écrire une histoire ou pas, c'est un climat. C'est une sorte d'atmosphère générale qui commence à m'obséder un peu plus. Par exemple, je me souviens pour mon deuxième roman, j'étais toujours dans ces atmosphères de soleil, de chaleur. Et dans le deuxième roman, le mot île Maurice n'apparaît jamais, puisque c'était même pas conscient. Pour moi, c'est ça qui prime, c'est cette atmosphère-là. C'était pas du tout
le climat pesant.
C'est ça qui pesait. Et dans le dernier frère, c'est la forêt. Humide et tropicale et parfois caressante de la nature et parfois oppressante et menaçante.
Même quand elle disparaît d'ailleurs, puisque la clairière est aussi menaçante que la forêt, quand d'un seul coup elle ne protège plus du regard des autres. Justement, le deuxième roman, Blue Bay Palace, débute avec une citation de Carl de Souza que j'ai cité tout à l'heure. Notre chair est faite de nos espoirs et de nos craintes, mieux que notre bouche, elle dit qui nous sommes. Ce qu'on jette à la mer, c'est ça qui est intéressant. Enfin, je veux dire, dans tout ce livre de Carl de Souza, il y a ce thème d'enfer-paradis. Et ça me fait penser aussi, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, cette idée d'enfermement. Je voudrais citer un écrivain cubain qui vit dans une île, qui vivait dans une île, Virgilio Pinera, qui disait cette maudite circonstance d'être entouré d'eau de toutes parts. Vous avez parlé de prison, il y a le thème de la prison dans la prison, puisque là on est dans un hôpital avec le dernier frère qui est une prison entourée de barbelés, dans une île qui est elle-même une prison, ou dans la forêt dont on peut difficilement s'échapper. Je voulais qu'on en parle plutôt à la fin, mais j'ai envie qu'on reste un petit peu sur cette thématique, parce que vous dites ne pas savoir forcément parler de l'île Maurice. Et en réalité, avec ce thème de l'enfermement, de la prison et cette espèce d'oppression, peut-être que vous ne parlez que de ça. Est-ce que ça vous évoque quelque chose de relier cette écriture à un contexte géographique, même si vous en êtes très éloigné aujourd'hui?
Non, c'est vrai que je n'y... C'est pas comme cela que je le verbalise. Je vais vous raconter une anecdote. J'y vais à Grenoble et pour la première fois avec des amis, je monte sur le Vercors. Donc ça prend du temps, c'est haut. Je me souviens plus du nombre de temps que ça prend. Et c'est vrai que vous avez raison, je me suis toujours imaginé dans une île, l'enfermement, etc. Et j'arrive en haut. Et là, je cherche la mer. Et je me retourne et on était quand même très haut. Et je demande aux personnes qui m'accompagnaient, mais on ne voit pas la mer d'ici. Et finalement, tout le monde se fiche de moi, comment la mer. Et j'ai eu le même sentiment d'oppression que entourée d'eau. Toute cette terre autour, ces montagnes à l'infini, et ne pas voir la mer, Et ça, c'est une histoire à laquelle je pense pour beaucoup relativiser justement cette relation à l'île, au fait d'être entouré. J'essaye vous avez peut-être raison, peut-être que à chaque fois l'humorisme rattrape alors que j'essaye de.
Même sur le Vercors.
Même sur le Vercors, elle me rattrape alors que j'essaye de m'en éloigner. Mais la Nozdana est quelque chose que j'ai vraiment essayé de faire pour me prouver à moi-même d'abord que je pouvais écrire un livre qui se passe entre Lyon et Bourg-en-Bresse.
Oui, mais il y a quand même des choses qui rattrapent, on va le dire aussi. Mais c'est qu'il Maurice est intérieur, sûrement. On peut entendre un deuxième passage.
Il faut me pardonner. Et ces choses-là, surtout celles qui vont suivre, sont restées en moi si longtemps. Elles ont macéré parmi d'autres souvenirs et c'est maintenant ou jamais le moment de les dire. Je ne peux pas encore une fois me dérober, j'ai peur, j'ai 70 ans et j'ai peur de ma mémoire. Je voudrais dire exactement ce qui s'est passé. C'est le moins que je puisse faire pour David. Je voudrais dire l'important, je voudrais le mettre enfin, lui, au centre de cette histoire, qu'il soit un individu qui ait la place de dire son chagrin, sa douleur. Mais il ne parlait pas de ces choses-là, David. Il n'avait pas appris à penser à lui, à dire comme moi j'ai pu le faire. Mes frères me manquent, j'ai froid dans la forêt, j'ai peur, je veux rentrer chez ma mère. Je n'avais pas compris cela à l'époque. Il était pour moi un compagnon formidable. J'admirais sa présence tranquille, sa force insoupçonnée. Je me disais qu'il était plus courageux que moi, qu'il était de la trempe de mes frères, cette façon de faire exactement ce que j'attendais de lui, cette façon de se sacrifier pour moi, de ne pas me décevoir. Pas un instant, je n'ai imaginé qu'il n'avait tout simplement jamais appris à penser à lui et qu'il avait été soufflé par tant de morts, par tant de malheurs, que son cœur, son corps, sa tête n'existaient plus. Il traversait la vie comme s'il savait que ce qui était arrivé au sien le rattraperait. Il chantait ses chansons apprises je ne sais où. J'aime à croire que c'est sa mère qui lui a mis ces mots-là dans la bouche. Il parlait parfois à toute vitesse et maintenant je comprends qu'il s'accrochait à sa langue maternelle, le yiddish, parce que c'est tout ce qui lui restait. Sa langue était une sorte de musique pour moi et dans la forêt, il avait chanté quand la nuit tombait, comme faisaient certains dans la prison, le soir. Il chantait pour se libérer de cette île qu'il détestait, ce pays qui serait à jamais pour eux une prison.
Bon, j'avoue que j'ai choisi le passage pour terminer sur la prison, mais je ne voulais pas forcément qu'on reste là-dessus. Et je trouve qu'il y a deux choses intéressantes et je viens d'en entendre une troisième à la lecture. D'une part, ce rapport à l'individu, à apprendre à devenir un individu, à savoir comment, qui on est, comment on se construit. Et évidemment, quand on meurt à 10 ans... c'est forcément incomplet. Et justement, ce narrateur qui a 70 ans, donc je voudrais qu'on parle d'abord de l'individu, mais après je voudrais qu'on reste aussi sur ce choix que vous faites assez souvent d'investir des personnages relativement âgés, en tout cas qui ont une expérience de vie longue, qui semble inattendue sous la plume d'une jeune romancière. Mais avec un rendu d'expérience qui est assez fabuleux, je trouve, pour justement apprendre à savoir comment se construit une vie, comment se forge un individu. Et là, alors, ce que je viens d'entendre, il parle de Rage parle de David, finalement, comme il parle de son fils. J'avais pas noté ça avant, mais je viens de l'entendre là. Donc sur cette question de la formation d'un individu et puis ce choix de prendre quelqu'un d'âgé pour en parler.
c'est vraiment pour moi le processus de quand je quand j'avais un peu a voulu écrire cette histoire, avait commencé avec David ayant 10 ans. Raj, pardon, ayant 10 ans, qui raconte cette histoire et qui a 10 ans et qui voilà, raconte un peu ce qu'il voit. Et ça ne marchait pas. C'était un texte qui était, c'était un récit qui était très linéaire, sans aucune perspective. Même ses descriptions, je n'arrivais pas à donner chair à tout ça. Donc j'ai dû écrire une quarantaine de pages et après j'ai changé, j'ai pris un narrateur extérieur, j'ai dû écrire à peu près 20 pages et j'ai également laissé tomber. Et au-delà de ce qu'on veut raconter, je crois que l'important, en tout cas pour moi, l'important c'est de trouver une voie. Ce ton de ce personnage qui va vous accompagner, qui sera un ami, qui va, parce que l'écriture d'un livre ça dure un an, deux ans, donc il ne va jamais vous laisser tomber, retomber comme un soufflet. Et en effet, c'est ce vieil homme de 70 ans qui m'est à ma troisième tentative. Et c'est à travers lui que j'ai pu retrouver la voix de lui-même, disons. Tout seul, je n'y arrivais pas. Et c'est vrai que je me sens plus à l'aise avec des personnages qui sont plus âgés, qui ont une certaine ampleur dans les souvenirs, dans la mémoire, dans les souvenirs, et dans la façon d'avoir de la perspective sur ce qu'ils racontent.
C'est le cas aussi de l'Anos d'Anna, où là aussi il y a cette mise à distance, c'est une mère, c'est le rapport entre une mère et sa fille qu'elle va marier. Et là aussi il y a une mise à distance finalement de sa propre enfance, sa propre jeunesse, de son propre vécu, de son propre rapport au corps. Enfin, il y a énormément de choses qui passent, non pas par la fille, mais par l'expérience de la mère.
Oui, par la mère. C'était, sans doute, c'était plus. C'est pas très original pour moi de raconter du parti de la fille. Et comme j'étais entre les deux âges et que ce personnage de Sonia m'était beaucoup plus sympathique, donc j'avais préféré en effet raconter du point de vue de Sonia. Mais je dois dire que ce sont des choses qui sont assez instinctives. Ce ne sont pas, pour moi, c'est pas des choses que je décide à l'avance, où je me dis, voilà, je décide de faire ça, c'est celui-là. Comme je vous disais tout à l'heure, je peux commencer quelque chose pendant 40 pages et le lâcher parce que je ne l'ai montré à personne, ces textes, mais je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a une sorte de... Pour moi, l'important, ce n'est pas de dire une vérité, c'est d'être juste. Et je sens qu'il y a cette justesse-là qui fait défaut.
Et la justesse, elle se trouve par la voix d'un homme âgé. Donc il y a à la fois ce rapport à l'âge et en plus un sexe différent. Et dans ce rapport père-fils que vous décrivez, qui a priori vous est étranger.
Oui, mais je crois que quand j'en écris, enfin moi je... J'ai plus l'impression d'être ce que je suis. Je ne suis plus une femme. Je suis plus. J'incarne. Pour moi, c'est vraiment une façon d'incarner quelqu'un d'autre, d'être très loin. Évidemment, on peut avoir un autre débat sur ce qu'on met dans ces personnages, mais pour moi, je ne suis pas du tout dans l'autofiction, je ne suis pas du tout dans me raconter. Donc là, en effet, c'est un vieil homme de 70 ans, mais c'était plus instinctif qu'autre chose.
Et dans les deux autres romans, il y a à chaque fois deux voix. Au contraire, il y a une sorte de dialogue qui se fait avec pour Boulou Ben Palas, entre la voix de la jeune fille et la voix d'un garçon, il y a cet échange, il n'y avait pas nécessité de trouver absolument une voix unique pour raconter. Ça s'est fait autrement, à l'écriture.
Ça s'est fait autrement. Mais il faut dire que dans Le Dernier Frère, pour moi, il y avait quelque part deux voix, puisqu'il y avait évidemment le vieil homme de 70 ans, il y a aussi l'enfant. Et les voix ne sont pas tout à fait ne sont pas tout à fait les mêmes. L'enfant ne sait rien, ne sait pas, et dans ce sort de présent très lourd, très fort, il vit avec cela, alors que Raj, à 70 ans, a une autre voix, déjà beaucoup plus empreinte d'expérience, de savoir et de sagesse.
Je voudrais qu'on revienne un tout petit peu sur le personnage de la mère, parce que elle est présente, évidemment, on l'a entendu tout à l'heure, parce qu'il y a cette transmission vers le fils de Raj, et elle est un soutien permanent pour Raj, enfant, même si à un moment il la met en question, justement par rapport à sa connaissance éventuelle d'événements historiques, en disant bah, quand même c'était la guerre, nous on était enfants, mais est-ce que toi tu savais ce qui se passait, il la violente un petit peu à un moment, enfin il la force un petit peu,
ça dure très peu de temps.
Et il y a cette sorte de confiance absolue pour la mère qu'on retrouve aussi dans la noce d'Anna, même si là aussi il y a des tensions. Et voilà, puisqu'on est dans les histoires de famille, qu'on s'attarde, parce qu'on a beaucoup parlé du rapport père-fils.
Oui, mais... disons que moi, c'est des modèles qui me sont assez... j'ai beaucoup vu ça, hein, dans les récits de ce que j'ai pu entendre, des pères violents et des mères...
aimantes.
Très, très aimantes. Ma grand-mère était une femme absolument délicieuse et qui avait ce don avec les plantes. Et d'ailleurs, la seule chose de vrai, comme je disais, par rapport à moi, de personnel, si vous voulez, dans Dernier Frère, c'est que mon père a été atteint de poliomyélite quand il avait 4 ans, et que ma grand-mère l'a guéri avec les plantes. Donc c'est la petite touche un peu personnelle que j'ai inscrite dans... Et ça m'amuse beaucoup parce que j'ai fait quelques rencontres et où les lecteurs me disent « Ah, votre livre, on croit à tout, mais vraiment guérir de la poliomyélite avec les plantes, ça, on n'y croit pas. » Et je prends toujours grand plaisir à dire oh, « bah, c'est la seule chose qui est vraie dans ce moment. » Et c'est vrai que moi, je me souviens, parce que j'ai habité chez elle pendant 5 ans, j'étais une enfant très casse-cou, je tombais souvent et je crois que très tard j'ai connu l'aspirine, mais c'est toujours les plantes, toujours les massages, toujours les choses très naturelles avec les mains. Donc ça c'est des choses que j'ai plutôt vécues.
C'est d'ailleurs...
Pas le père. Hein. Je rassure tout de suite.
Est-ce qu'elle vous a transmis la connaissance des plantes, votre grand-mère ?
Non, je suis très aspirine, moi. Malheureusement, je n'ai pas... D'ailleurs, je crois même pas qu'elle... Nous, on trouve ça formidable de faire ça avec les plantes. Pour elle, le progrès, c'était le cachet d'aspirine. C'était ça le progrès, c'était pas. Enfin, il faut se remettre dans le contexte. Je pense que si je lui avais demandé de m'enseigner comment utiliser telle fleur, elle m'aurait dit mais non, mais va dans tes livres et fais des choses plus. Pour elle, je pense que c'était plus une marque de quelqu'un qui n'est pas instruit. De se servir de plantes, etc. C'est pas des choses qu'elle... malheureusement, hein, moi non plus, malheureusement, ça ne m'intéressait pas à cette époque, mais... Non, mais ça, c'était pas des choses qui étaient valorisées. c'était pas des choses qui étaient valorisées, et puis elle est morte avec. Mais je pense qu'il y a encore à Maurice, il y a certaines personnes qui ont encore cette facilité avec, avec la nature.
Alors, juste une chose, parce que finalement, on est parti ailleurs avec, avec ces plantes, mais à propos justement de ce rapport à l'histoire qu'on peut avoir en tant qu'individu. C'est-à-dire que ça nous tombe dessus, c'est le cas en l'occurrence là, autant pour la mère que pour Raj, que pour David. Et il y a quand même la question, puisqu'on a commencé avec ça, de la responsabilité, non pas dans son être propre par rapport à ce qu'on peut avoir vécu de mieux par rapport à son entourage, et que finalement, étant le plus faible, on survit quand même, et que, bon, on peut ressentir cette culpabilité, mais sur ce sentiment plus historique et plus métaphysique aussi de la responsabilité qu'on peut avoir face à un événement historique, en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on aurait fait réellement?
Bien sûr. Moi, c'était une question qui m'a toujours beaucoup travaillé. Et je pense que le fait d'avoir vécu beaucoup dans la région, à Grenoble et à Lyon, où les marques de la Seconde Guerre sont très présente. À Lyon, j'ai encore beaucoup d'amis dont les bonnes grands-parents, parfois les parents, ont été dans la guerre, ont toujours des histoires à raconter. Et moi, j'ai cette histoire du cimetière, je l'ai apprise très tard. Et je m'étais toujours dit, oh là là, moi, qu'est-ce que j'aurais fait, ou qu'est-ce que mes parents auraient fait, ou voilà, je viens d'un pays qui est absolument étranger à cela. Et c'est vrai que quand j'ai appris cette histoire et que je me suis rendu compte que c'était une époque où mon père était déjà né, mon grand-père était jeune homme, et qu'ils auraient pu, si c'était possible, ils auraient pu rencontrer ces gens-là, ils auraient pu être quelqu'un qui aurait fait ceci, cela. Évidemment, bien sûr, ça m'avait beaucoup bouleversé, cette histoire, de savoir que j'ai vécu 25 ans dans un pays sans jamais connaître cela. C'est une histoire qui n'est pas enseignée, hein, qui n'est pas enseignée à l'école. Comme des petits Français, nous apprenons la Première Guerre, la Seconde Guerre, nous sommes dans les mêmes livres, mais je trouve que ce serait bien d'avoir qui est ça, qui soit transmis.
Merci Natacha. Peut-être un tout dernier paragraphe assez court pour terminer sur sur vos mots.
J'étais remplie d'espoir. Je voulais un frère, deux frères. Une famille comme avant, des jeux comme avant, je voulais être protégée comme avant, je voulais retrouver ces ombres au coin de l'œil qui vous font savoir que vous n'êtes pas seul. Je luttais désespérément contre tout ce qui m'éloignait de l'enfance, refusant la mort, refusant le chagrin, refusant la séparation, et David était la réponse à tout.
Toda palabra, con toda sonrisa.
Voilà, merci Natacha Pana pour cette rencontre publique, je le rappelle, qui a été réalisée au Printemps du Livre à Grenoble, samedi 5 avril, grâce à toute l'équipe très sympathique du Printemps du Livre qui nous a accueillis, grâce en particulier, je la remercie ici, à Karine Dinka qui m'a fait venir pour participer à cette manifestation et avoir cet entretien public avec Natacha Pana. Je rappelle les titres que nous avons évoqués, Les Rochers de Poudre d'Or, La Noce d'Anna, Blue Bay Palace, trois romans parus aux éditions Continent Noir chez Gallimard que nous avons présenté en quelques mots pendant cette rencontre, et puis surtout Le Dernier Frère, le dernier roman de Natacha Pana paru aux éditions de l'Olivier. La prochaine rencontre le mois prochain, mercredi, le premier mercredi de chaque mois, je vous le rappelle, aura lieu plus près de nous dans la région, et ça sera en compagnie de Claudine Galéa que je serai cette fois-ci. À l'air libre, cette émission est réalisée et présentée par Pascal Jourdana et vous pouvez la retrouver sur internet à www.grenouille888.org. Au mois prochain.